questions.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour parler argent aujourd'hui, ou plus exactement, nous interroger sur notre rapport à l'argent. Que fait-il de nous et que faisons-nous de lui ? Pourquoi certains sont avares, radins et d'autres prodigues, paniers percés ou flambeurs ? Qu'est-ce que l'argent dit de nous et de nos sociétés dans le contexte économique actuel ? Quels sont les ressorts inconscients de l'économie ? Voilà quelques-uns des fils d'argent que nous allons tirer avec notre invité, le psychanalyste Patrick Avran, qui aime bien jouer les empêcheurs de penser en rond autour de la question « Pourquoi faire la psychanalyse de l'argent ?» Bienvenue. Bonjour Patrick Avran.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes psychanalyste et écrivain, auteur de nombreux essais. Le dernier en date aux presses universitaires de France s'intitule « Petite psychanalyse de l'argent ». Drôle d'idée tout de même pour un psychanalyste que de coucher l'argent sur le divan et sur le papier.
Drôle d'idée, mais en même temps, le psychanalyste est obligé de s'interroger sur tout ce qui se passe autour de lui. Il ne faut pas oublier que quand même, comme tout le monde, il a besoin d'argent pour vivre.
Et que donc... C'est d'ailleurs un reproche qui est fait parfois à la psychanalyse ou au psychanalyste.
Le reproche qui est fait au psychanalyste, parfois, c'est de demander trop d'argent. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que le propre de la psychanalyse, c'est effectivement d'être une activité où l'on donne on a l'insentiment de ne rien donner en échange. C'est-à-dire que quelqu'un vient acheter, il vient acheter quoi ? Quelque chose qu'il ne sait pas lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement fait partie de la psychanalyse. Mais l'argent, c'est deux choses. C'est à la fois la façon dont chacun vit dans le monde avec les autres. Parce que l'argent, il est partout. Et aujourd'hui, on ne peut plus, dans notre société, vivre sans argent, c'est-à-dire tout simplement vivre sans avoir des billets de banque ou des pièces.
Voilà pourquoi il faut le penser, ou en tout cas essayer de l'analyser.
Il faut le penser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'il est sans intérêt, sans importance, et le mettre de côté. L'argent, c'est comme la parole, c'est quelque chose qui relève, on pourrait dire, du symbolique, de ce que les psychanalystes, et pas uniquement eux, appellent le symbolique, c'est-à-dire qu'il fait partie aujourd'hui de la société humaine, au sens le plus large du terme.
Pas sans intérêt, donc, hein, autour de la question, pourquoi faire la psychanalyse de l'argent ? Première piste d'analyse et de réflexion sonore, sonnante et trébuchante. Chante avec le mix de Guillaume Ploquin.
On entend souvent des blatteries contre l'argent. Toujours on l'accuse de tous nos tourments.
Le premier paradoxe de l'argent, c'est que c'est une invention humaine qui a été destinée à nous être agréable et utile. Et pourtant, depuis très longtemps, nous ne cessons de l'injurier, de l'insulter et de le maudire.
Je prends un billet de 500 balles.
Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en faisant ça ?
Écoutez, c'est mon pognon.
L'écriture a été inventée pour faire garder des traces d'opérations financières, un sumaire. Malheureusement, ce n'est pas de la littérature, une lettre d'amour qui alors a été utilisée après pour faire de la comptabilité, c'est l'inverse.
C'est chien en chinois, c'est mu en tibétain, c'est dingui en russe, monnaie, platin.
Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de monnaie ?
Intermédiaire des échanges, l'unité de compte et la réserve de valeur, c'est-à-dire ce que l'on peut utiliser pour garder de la valeur dans le temps.
Vous êtes la fable et la risée de tout le monde, et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesse-mathieu.
Aujourd'hui, c'est plus indiscret de demander combien d'argent ce que vous avez et d'où ça vient, plutôt que avec qui ce que vous avez couché la nuit passée.
Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine.
La question, à mon avis, c'est plutôt, quand j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais ?
Combien il y a là, t'as compté 954 avec mes 100 francs, ça fait 1054. Parfait, puisqu'il nous faut 1574. À mon avis, il y a une boulette.
C'est toujours compliqué de faire l'addition quand on est à plusieurs au restaurant. Patrick Avran, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est effectivement toutes les multiples formes que prennent l'argent et tous les discours qu'il peut provoquer. Ça semble nous encombrer, l'argent. Et effectivement...
Ça semble nous encombrer, oui.
Oui, ça semble nous encombrer parce que il y a quelque chose qui nous échappe toujours un peu dans l'argent. Ce que l'on achète avec l'argent, on sait ce que c'est, mais l'argent lui-même, on ne sait jamais véritablement ce que c'est.
Hein. Qu'est-ce que c'est pour un psychanalyste, justement? Qu'est-ce que c'est que l'argent pour un psychanalyste? Comment est-ce que vous pourriez, vous, le définir en tant que psychanalyste?
Je ne sais pas si c'est une définition de psychanalyste. C'est la définition que, en tant que psychanalyste, j'ai trouvée chez les économistes, c'est une définition très simple. L'argent, c'est strictement et uniquement de la confiance. Ce n'est rien d'autre que cela.
L'argent, c'est de la confiance.
L'argent en tant que tel, n'existe pas véritablement. Ce qui existe, c'est la monnaie. C'est la monnaie qui vient mesurer la valeur de l'argent. Et la monnaie, ce n'est rien que de la confiance. Parce que si je vous donne un bout de papier où c'est écrit 50 euros, si c'est quelque chose que j'écris sur un papier blanc, il faut vraiment que vous ayez une grande confiance en moi
pour
y croire. Si je vous donne un billet de banque certifié de la Banque de France, vous y croiriez sans doute. Si je vous donne quelque chose dont vous ne savez pas trop bien ce que c'est, vous poserez des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en donnant de l'argent, eh bien, on fait confiance. Et en le refusant, on ne fait pas confiance. Et cette confiance, c'est pas uniquement dans l'échange monétaire qu'elle se passe, c'est dans la personne. Si, par exemple, un commerçant accepte un chèque de quelqu'un qu'il connaît bien, ça veut dire qu'il a confiance en lui. Ça veut dire qu'il sait que cette personne finira bien par le payer, même si son chèque n'est pas crédité ce jour-là. S'il refuse le chèque de quelqu'un qu'il ne connaît pas, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui. Il y a toujours quelque chose de la confiance dans la personne qui circule avec l'argent.
Avec l'argent, mais ce qui veut dire aujourd'hui, peut-être dans nos sociétés modernes, où l'argent est tout de même roi, et où nous sommes en crise, c'est quoi? C'est aussi une forme de crise de confiance, ces crises économiques?
Les économistes répondraient mieux que moi. Ce qui me semble...
Vous vous êtes fait aider d'économistes, hein, même, pour écrire cette psychanalyse de l'argent.
Oui, qui m'ont donné quelques pistes. Ce qu'il me semble, c'est que quand il y a une crise, effectivement, de la monnaie, il y a une crise de la confiance. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'effectivement, à ce moment-là, les personnes tentent d'éviter de passer par la monnaie. Il y a des trocs, des échanges de services, des trocs de biens, qui prennent la place de l'argent. Ça veut dire que il y a une confiance qui se refait dans l'échange mutuel de l'un à l'autre.
L'argent, c'est de la confiance. L'argent, vous dites aussi dans cette petite psychanalyse de l'argent, et vous l'avez dit en tout début d'émission, c'est un rapport avec la parole, avec l'échange.
Oui, parce que l'argent, ce que l'on en fait, c'est indépendant de ce qu'il est. C'est-à-dire que avec les mots, on peut dire des choses blessantes, on peut dire des mots d'amour, on peut décrire des choses très simples, on peut être romantique. Eh bien, avec l'argent, c'est la même chose. L'argent, il peut servir à acheter des armes, comme il peut servir à acheter un bouquet de roses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est indépendant de ce qu'il est, et exactement comme ce que sont les mots par rapport à ce qu'on en fait.
Donc c'est tout sauf rationnel, hein, on va y revenir, l'argent. Dans cette petite psychanalyse de l'argent, vous commencez, enfin, et on a envie de commencer par là, évidemment, par les radins et les avares, parce qu'il y en a qui aiment bien garder leur argent. Qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Ceux qui ne veulent pas lâcher leur argent, justement.
Je pense qu'il y a les radins et les avares sont pas forcément toujours les mêmes. C'est-à-dire que Picsou, que tout le monde connaît, Picsou, c'est quelqu'un qui donne une valeur extrême à l'argent. Pour lui, il n'y a que la monnaie qui compte, et ce qu'il ne veut surtout pas, c'est qu'on lui vole le moindre sou de son coffre-fort.
Il veut tout garder.
Il veut tout garder, et aucun échange avec quiconque ne se passe sans qu'il y ait quelque chose où il pense qu'il doit pouvoir prendre de l'argent à celui-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a strictement aucune confiance dans les personnes, et qui a toute confiance dans l'argent.
Ça, c'est un avare.
Ça, c'est un avare pur.
C'est l'avare de Molière.
Oui, un peu. Mais l'avare de Molière, il est aussi quelqu'un qui est pas uniquement celui-là. Il est plutôt du côté du radin, l'avare.
Alors, c'est quoi la différence entre l'avare et le radin?
La différence, c'est celui qui ne veut pas dépenser parce qu'il est toujours envieux de ce qu'ont les autres.
C'est-à-dire, c'est pas juste pour garder, c'est parce qu'il veut avoir plus que les autres.
C'est pas juste pour garder, c'est parce que il y a toujours le sentiment que les autres, ils ont ce qu'il n'a pas, lui. Hein. Et pour ça, il est obligé d'accumuler de l'argent. Mais c'est pas du côté de mettre dans un coffre-fort quelque chose qui ne sortira jamais. C'est plutôt du côté de ce que ça lui donne comme puissance d'avoir cet argent. Et effectivement, à chaque fois qu'il en dépense un peu, il a l'impression de perdre sa puissance. Si j'achète ça avec cet argent, je ne pourrai pas acheter autre chose puisque je l'ai déjà dépensé.
Autour de la question, pourquoi faire la psychanalyse de l'argent ? On écoute les Oufris Maracas sur RFI, l'argent.
Casser les dents, plus de dents pour manger. Il me faudrait de l'argent pour m'acheter un dentier. Garder sourire aux gens, sourire rien au monde entier. Pour les bonheurs aux gens, mais comme j'ai pas de métier, j'ai besoin de votre argent. L'argent à manger, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent à manger, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau, tu vas courir.
L'argent à manger, les Oufris Maracas sur RFI. En compagnie du psychanalyste Patrick Avra, nous tentons de comprendre ce que nous faisons de l'argent et ce qu'il fait de nous. Autour de la question pourquoi faire la psychanalyse de l'argent, on remonte aux origines de ce métal précieux avec Cristiano Ferraris, chargé de conservation pour la collection de minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
Après le platine et l'or, c'est le troisième métal qu'on trouve à l'état natif et qui a été utilisé depuis le début de l'histoire de l'humanité comme monnaie d'échange. Du moment que l'homme il a compris qu'il pouvait acheter ses similaires, voilà, donc, pour les utiliser, pour arriver plus haut, un instrument de pouvoir. Donc.
L'argent, spécifiquement l'argent.
L'argent, oui, parce que l'argent, c'est bon, il est beaucoup plus commun que platine et or, bien entendu. Et il est plus facile d'être extrait dans l'environnement géologique où on peut le trouver. C'est moins lourd, c'est plus facile à transporter. Donc voilà. Il a des propriétés qui ont été toujours exploitées par les êtres humains, notamment pour bâtir de la monnaie, mais aussi au niveau électronique, il est très important, parce que si on avait l'opportunité de faire des câbles électriques en argent, on gagnerait beaucoup plus en dispersion que par rapport aux câbles en cuir, mais par contre, c'est pas possible. Et donc.
On le trouve partout, sur toute la Terre, l'argent?
Il est beaucoup plus répandu que l'or, et on le trouve dans certains géotopes, ce qu'on appelle liés à des intrusions de roches profondes, de magma qui se refroidit à la proximité de la surface de la Terre, mais aussi dans des ambiances d'origine métamorphique, ça veut dire des roches qui ont subi de la tectonique, donc chose plus complexe. On peut le retrouver très souvent dans les rivières, notamment avant on parlait des rivières, des forêts tropicales, et tout ça, parce qu'il fait, on le retrouve comme petite pépite, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus répandu, et c'est pour ça qu'il a moins de valeur que par rapport à l'or et la platine aussi.
Alors, l'argent a moins de valeur que l'or, mais il vaut de l'or. Vous voulez réagir à cet éclairage minéralogique, Patrick Avran?
Juste un mot, les rivières, la première rivière qui a donné de la monnaie, ça s'appelait le Pactole. Le Pactole, c'est le lieu.
Le Pactole, oui. Oui.
C'est en Asie Mineure, c'est dans la Grèce antique, où Crésus à ramasser des pépites de mélange d'or et d'argent, et il a créé la première monnaie. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que en créant la première monnaie, il a créé des premières fausses pièces.
En même temps.
Parce que il disait, je prends un exemple, je ne connais pas les chiffres exacts, mais il faisait une pièce en disant, voilà, cette pièce vaut un gramme d'or. Mais on s'est rendu compte que dans cette pièce, il y avait 0,8 grammes d'or et le reste, c'était de l'argent. Et ça disquait la monnaie. Hein. C'est effectivement du côté de la confiance. Comme tout le monde avait confiance dans Crésus, on était d'accord avec lui.
C'est-à-dire que la monnaie, effectivement, c'est pas le poids réel en argent ou en or, peu importe. C'est un contrat tacite, finalement, entre les hommes?
Alors, aujourd'hui, encore plus qu'avant, puisque depuis des années 60, enfin, il y a eu la fin des accords de Bretton Woods, je ne suis pas un historien d'économie et j'ai peur de me tromper des dates, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun rapport direct entre une monnaie et l'or ou l'argent. C'est strictement quelque chose qui est un rapport de confiance entre les monnaies.
Donc on en revient à la question de la confiance, de quand date la monnaie. Vous parlez de pactole, est-ce qu'elle existe partout sur la Terre et sous la forme de l'argent, hein, puisque nous en français on dit l'argent pour dire l'argent, comme dans d'autres langues aussi d'ailleurs.
Elle existe dans le monde occidental depuis l'invention de la monnaie par les Grecs. Je pense qu'elle a existé également dans les empires chinois, mais elle n'a pas existé partout. Il y a beaucoup de civilisations qui se passaient de l'argent, où les trocs se faisaient autrement, avec par exemple ce qu'on appelle les kauris, qui sont des petits coquillages, qui ne sont pas véritablement de la monnaie, hein, c'est de la pré-monnaie, c'est quelque chose qui permet de comptabiliser le troc, c'est pas tout à fait la même chose.
Et est-ce que la monnaie est liée justement à la question des comptes et de la comptabilité? Est-ce qu'elle est liée, vous avez parlé du lien avec le langage, elle est liée à l'écriture aussi, enfin cette question d'argent, il faut pouvoir faire les comptes peut-être?
Ce que les historiens disent, c'est qu'il ne peut pas y avoir de monnaie sans écriture, et qu'à partir du moment où il y a d'écriture, la monnaie ne tarde pas d'arriver. Parce que, effectivement, la monnaie, c'est ce qui sert à faire les comptes, puisque c'est ce qui permet d'abstraire le compte de la chose présente. Il y a un saut dans le symbolique, on pourrait dire, qui se passe avec la monnaie.
Et un saut dans le pouvoir aussi, parce que qui a l'argent, qui a le pouvoir?
Non seulement qui a l'argent et celui qui a l'argent a le pouvoir, mais celui qui a encore plus le pouvoir, c'est celui qui peut donner la valeur de l'argent. C'est-à-dire que on sait très bien, on a appris ça en histoire, que les rois de France pouvaient dévaluer la monnaie, que les pièces pouvaient avoir de moins en moins d'or que ce qu'elles annonçaient. C'est-à-dire que celui qui a le plus de pouvoir, c'est peut-être encore plus celui qui donne sa valeur à la monnaie.
Celui qui donne sa valeur à la monnaie. Donc oui. On en revient à cette question de confiance aussi, c'est-à-dire c'est celui qui décide en fait.
C'est celui qui est le maître. C'est celui qui est le maître et qui décide. Alors aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de maître qui décide.
Est-ce que c'est pas l'argent qui serait devenu le maître aujourd'hui?
En tout cas, on pourrait dire qu'il n'y a plus véritablement de maîtrise, il semble parfois.
Par rapport à l'argent, c'est ce que vous ont dit aussi les économistes avec qui vous avez travaillé sur cette question de l'argent?
Ce que disent les économistes, c'est que on est dans une période où apparemment les crises ne peuvent que s'enchaîner. Parce que il y a quelque chose qui est jamais complètement maîtrisé, quelles que soient les théories économiques. Pour ma part, ce que je pense, mais je pense très modestement, c'est que le problème des économistes, c'est qu'ils ont une idée de l'homme assez simpliste. C'est-à-dire que pour eux, l'homme est quelqu'un de rationnel. Évidemment, les psychanalystes ont du mal à penser ça. Et que l'homme n'étant pas rationnel, il faut penser que son rapport à l'argent, le rapport de chacun avec l'argent, ne peut pas être rationnel. Et un économiste a du mal à penser que quelqu'un peut dépenser sans vouloir acheter quelque chose en échange.
On va y revenir, on va continuer de chercher ce que nous faisons de l'argent et ce que l'argent fait de nous. Ce sera dans 3 minutes, juste après le flash d'info. Patrick Havan, on se retrouve autour de la question: pourquoi faire la psychanalyse de l'argent? Et on va essayer non pas de tourner en rond, mais de se faire des ronds, on ne sait jamais. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie en compagnie du psychanalyste et écrivain Patrick Avrane, auteur d'une petite psychanalyse de l'argent aux presses universitaires de France. Nous continuons d'interroger notre rapport à l'argent et de découvrir les ressorts inconscients de nos économies. Que faisons-nous de l'argent et que fait-il de nous, cet argent que nous avons transformé en monnaie? J'ai demandé au linguiste et polyglotte Nicolas Tournadre, spécialiste des langues tibétiques, un éclairage étymologique sur le fric, l'argent, la monnaie. Sont-ils toujours liés dans toutes les langues?
Dans une langue du Tibet, du nord-est, l'amdo, ça se dit gourmo, qui veut dire les ronds. Et là, on a l'argent au sens de la monnaie. C'est souvent la forme, parce qu'au départ, il y avait des coquillages, il y avait les monnaies d'échange. Et on eut des formes diverses et variées. On peut avoir des noms qui ne sont pas nécessairement liés à la matière, à l'argent, au minerai lui-même. Ça peut être totalement distinct. Hein. Mais il y a aussi des langues qui vont, en fait, je pense, ne pas avoir de mots pour argent, tout simplement. Parce qu'il y a des langues aussi qui ne comptent pas, qui n'ont même pas de nombre. Ça, c'est extraordinaire. Il y a quelques langues amazoniennes et quelques langues aborigènes d'Australie, sauf très récemment empruntées de l'anglais, mais qui ne comptaient pas. Et je suis pratiquement certain que dans un certain nombre de langues, il n'y a tout simplement pas de mots pour désigner l'argent. Parce que c'est notre monde à nous, c'est notre divinité moderne, mais évidemment, il y a des tas de langues qui n'ont pas du tout de concept pour ça.
Il y a des langues qui n'ont pas de mots pour le dire, l'argent. Ça doit parler au psychanalyste que vous êtes, Patrick Avrane.
Je pense qu'il y a des mondes où il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de mots pour le dire. Moi, j'aime bien les ronds, parce que c'est Balzac qui dit ça dans je ne sais plus quel roman, parce qu'à la fois, ça peut s'empiler, les pièces, et
les ronds,
ça peut rouler.
Oui. Ça peut rouler, donc ça peut s'échanger.
Donc ce sont les deux formes de l'argent. Soit on peut le garder, soit on peut le faire tomber, soit on peut l'échanger.
À propos des mots, alors l'argot est très très riche hein, en mots pour parler de l'argent. Il y a les ronds, il y a les radis, il y a la liquidité aussi, on peut dire. Et c'est même pas de l'argot ça, les liquidités.
La liquidité, c'est quelque chose qui est fondamental de l'argent et qui est, je dirais, une des fonctions de l'argent dans la psychanalyse.
La liquidité,
ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est très simple, c'est un concept économique. Ça veut dire qu'avec de l'argent, on peut tout acheter. Tout ce qui se vend, bien évidemment. Hein, même ce qui se vend pas, mais alors à ce moment-là, ça devient autre chose. Avec de l'argent, on peut tout acheter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas obligé de tenir compte du désir de l'autre, contrairement au troc. Je m'explique. Si j'ai un verre, et que je souhaite vous l'échanger contre ce stylo. Mais peut-être que vous ne voulez pas de mon verre. Mais moi, j'ai envie de votre stylo. Donc, je peux envisager d'échanger mon verre contre avec quelqu'un qui a un morceau de papier et qui vous intéressera, à qui vous donnerez le stylo. Voilà. C'est quoi le troc? Eh bien, c'est ça. Le troc, ça veut dire constamment être obligé de s'interroger sur le désir de l'autre.
Sur ce que veut l'autre, qui lui ferait plaisir ou pas.
Ce qui lui ferait plaisir ou ce dont il a besoin ou envie. Ce qui est merveilleux avec l'argent, c'est que ça évite ça. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on n'a pas besoin de s'interroger sur le désir de l'autre. Ou bien il le vend ou bien il le vend pas. Mais on n'est pas obligé de chercher qu'est-ce qui va lui faire plaisir pour.
Donc ça simplifie.
Ça simplifie.
Les rapports, ça n'oblige pas à se mettre, enfin, là vous êtes psychanalyste, dans le désir de l'autre.
Absolument. Et c'est pour ça qu'il me semble extrêmement important que les psychanalystes soient payés avec de l'argent.
Voilà pourquoi.
Voilà pourquoi.
Vous parlez de liquidité, effectivement, pour que justement ce soit neutre et au fond, que ce qu'on peut reprocher à l'argent, de tout acheter justement, permette précisément un rapport neutre entre les gens ou d'avoir quelque chose d'égalitaire.
Un rapport neutre, c'est-à-dire ne pas être en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire avec ce que je lui donne là, puisqu'il peut en faire tout ce qu'il veut.
Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs.
Oui, pour le meilleur comme pour le pire. Mais disons que restons dans la légalité. Hein. On voit bien que les moments où l'argent a disparu, par exemple, comme ça s'est passé à la fin de la guerre en Allemagne, particulièrement à Berlin, au bout d'un moment, la vie devenait intenable. À ce moment-là, les Berlinois ont été obligés d'inventer une espèce de pseudo-monnaie, ça a été les cigarettes. C'était les cigarettes qui permettaient justement de se sortir du troc, parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre. Quelqu'un avait une paire de chaussures, voulait du café. Il fallait qu'il trouve quelqu'un qui ait du café et qui ait la même taille de pointure de chaussures.
Oui, c'est d'une complication infinie.
Avec l'argent, les choses se règlent. Quand il n'y a pas d'argent, on trouve un autre moyen. En l'occurrence, c'était des cigarettes.
Donc c'est fondamental l'argent dans les rapports humains, même si aujourd'hui on a l'impression parfois que c'est un peu déconnecté de la réalité. C'est quand même fondamental dans les rapports humains.
C'est fondamental dans les rapports humains, ça simplifie les rapports humains, et contrairement à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, c'est quelque chose qui permet que les rapports humains se passent mieux, puisqu'on n'est pas obligé de s'interroger sur constamment ce que veut l'autre, ce qui rend la vie impossible.
Alors, se passe mieux les rapports humains quand on en a de l'argent, parce que si on n'en a pas, c'est plus compliqué.
Ça, c'est autre chose. Je parle effectivement de la fonction de l'argent. Je ne parle pas de la quantité d'argent que chacun a. Et évidemment, ça ne résout pas le problème
Mais
de la pauvreté.
Est-ce que, puisque vous êtes psychanalyste, la question de l'argent, est-ce qu'elle est différente si on en a beaucoup ou si on en a peu? Ou est-ce que vous, dans votre expérience, vous trouvez que c'est ça ou c'est pas ça le problème?
À partir du moment où on en a suffisamment pour vivre et le un peu plus qui permet d'être pas simplement dans la survie, on se rend compte que quelle que soit la quantité d'argent que les personnes ont, il y aura des gens qui sont radins, qui sont dépensiers, qu'ils en aient beaucoup ou pas beaucoup.
Peu importe, ça c'est lié à ce qu'on est.
À ce qu'on est plus qu'à ce qu'on a.
C'est lié à ce qu'on est, puisqu'à ce qu'on a. Vous dites d'ailleurs aussi que l'argent met à nu, hein, quand même, met à nu ce qu'on est, justement.
Il met à nu ce que l'on est à partir du moment où il montre la façon dont on le dépense. C'est-à-dire que, bien évidemment, acheter un kilo de pommes de terre, c'est la même chose pour tout le monde. Mais entre celui qui, quand il y a un dîner au restaurant, par exemple, entre amis, entre celui qui veut payer pour tout le monde, celui qui fait les comptes au centime près, celui qui dit « Ah mais moi, j'ai pas pris de dessert, donc je dois payer moins », etc. On voit bien qu'à chaque fois, il y a une mise à nu de la personne. Il y a une mise à nu de quoi ? De son rapport aux autres.
De son rapport aux autres, c'est-à-dire celui qui donne tout, celui qui garde tout, celui qui compte tout, c'est ça que vous dites ?
Oui.
Autour de la question « Qu'est-ce que nous faisons de l'argent et qu'est-ce qu'il fait de nous ?» Je vous propose tout de suite un nouvel éclairage, celui d'un philosophe, Francis Wolff.
Généralement, on distingue argent et monnaie. La monnaie, c'est ce dont on a besoin et c'est un instrument de mesure économique. Mais l'argent, lui, c'est surchargé de symboles et ce n'est pas simplement un moyen d'échange. On dit que la monnaie est un moyen universel d'échange. Vous pouvez tout convertir en monnaie. Mais dans l'argent, il y a quelque chose de beaucoup plus. Vous avez les gens qui accumulent l'argent parce qu'ils sont avares ou parce qu'ils ont le sentiment de posséder quelque chose de beaucoup plus de la monnaie. Si c'était simplement de la monnaie, ils pourraient en permanence l'échanger, l'utiliser, etc. Bon, mais la richesse n'est pas faite seulement de monnaie, elle est aussi faite de ce rapport curieux, irrationnel que nous avons, ou que certains ont, avec l'argent comme puissance et puissance symbolique.
L'argent puissance symbolique, c'est le moins qu'on puisse dire, est toujours irrationnel finalement, notre rapport avec l'argent, enfin pas très rationnel en tout cas.
Pas plus rationnel que le rapport que l'on a en général avec les choses et les gens. C'est-à-dire que l'argent qui se voit et se véhicule sous forme de monnaie, c'est comme la parole. Il y a quelque chose qui, dans la façon dont on parle, n'est jamais tout à fait rationnel, puisqu'on a toujours un peu de soi dans tout ce que l'on dit.
Et qu'est-ce que vous dites justement des flambeurs? Vous leur consacrez un chapitre dans votre petite psychanalyse de l'argent. Vous rappelez aussi évidemment Gainsbourg le flambeur, hein, qui brûlait la moitié seulement de son billet de 500 francs à l'époque. Qu'est-ce que ça dit quand on est flambeur?
Il brûlait non seulement la moitié de son billet de 500 francs, on peut dire que c'était un investissement énorme, parce que du coup ça lui a fait une publicité montre, et en plus, il faut pas oublier qu'il brûlait ça pour dire ce qu'il donnait à l'État comme impôt. Il était en avance sur son temps. Le flambeur, c'est quelqu'un qui a, d'une certaine façon, besoin de montrer tout l'argent qu'il a. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui où l'argent lui est nécessaire non pas pour être dans un échange, dans un achat, dans garder, dans vouloir se procurer des biens, dans vouloir accumuler des choses, c'est plutôt montrer comme il est, lui, plein de lui-même, et tellement plein de lui-même qu'il peut dilapider il sera toujours plein de lui-même. Alors, un psychanalyste, il vous dira toujours que ça a à voir avec la petite enfance. On peut rêver, on peut dire que, par exemple, le flambeur, c'est comme un bébé qui est constamment nourri et qui n'a aucun doute sur le fait que à chaque fois, il n'aura jamais faim parce que le biberon ou le sein viendront le contenter. Donc, il peut flamber tout ce qu'il a, parce qu'il y en aura toujours qui viendra.
Est-ce que c'est la même chose qu'un panier percé, par exemple ?
Un panier percé, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, parce que en général, quand on pense à panier percé, on pense à quelqu'un qui achète constamment. Et on pense à ce moment-là à quelqu'un qui a besoin de se procurer constamment des objets. Il y a toujours quelque chose qui lui manque. Ça, c'est le propre de chacun.
Mmh. Bon. Donc, c'est pas si grave que ça, docteur.
C'est pas si grave que ça. Si on passe son temps à vouloir combler le trou, on n'arrive pas. C'est là qu'on devient panier percé. C'est celui qui n'arrive jamais à raccommoder le fond du panier, mais qui pense qu'il faut toujours le raccommoder. Acceptons nos manques.
Acceptons nos manques, c'est une parole de psychanalyste. Et vous accordez aussi, enfin, un de vos chapitres, c'est un des derniers, à ce que vous appelez les fortunés. Joli mot en français, hein. On dit la fortune sourit aux audacieux. Oui. La fortune, c'est la richesse ou c'est la chance?
Ben, en français, ça a pris les deux sens. C'est que la fortune, étymologiquement, c'est la chance. Et que maintenant, en français, c'est essentiellement la richesse. La fortune, c'est quoi au sens de la richesse? Eh bien, c'est quelqu'un qui a, ou des personnes qui ont beaucoup d'argent, et qui en même temps, savent s'en servir sans en faire étalage. Il y a un service à la Française des Jeux qui apprend aux personnes qui sont les...
aux fortunés.
des nouveaux fortunés, comment ne pas être débordés par leur fortune. Parce que ils n'ont pas le mode d'emploi. Je dirais que le fortuné, c'est celui qui a le mode d'emploi de sa richesse. Et ce mode d'emploi, certains ne l'ont pas et se retrouvent avec beaucoup d'argent, coupés du monde, parce que il y a quelque chose qui n'était pas dans leur mode de vie jusque-là.
Vous disiez au début de cette émission que l'argent nous encombrait aussi, enfin que c'est compliqué de toute façon, toujours notre rapport à l'argent. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a l'impression, comment dire, vous avez fait la différence entre les avares et les radins, ou les cupides. Aujourd'hui, on est dans un monde plutôt cupide, ou qui encourage la cupidité. Nos publicités, elles nous encouragent à être panier percé et pas à être avare.
Je pense que effectivement le monde d'aujourd'hui est un peu antinomique avec le monde des Grecs et des classiques, où la cupidité était très très mal vue. Aujourd'hui, il y a une incitation à la dépense, donc une incitation à l'accumulation de l'argent pour pouvoir plus en dépenser, comme si effectivement l'argent allait donner une valeur à la personne. Et c'est précisément ce que les Grecs anciens mettaient de côté. Les riches Grecs, à partir du moment où ils avaient fait fortune, n'avaient qu'une seule envie, c'est que leur fortune disparaisse et qu'ils deviennent des propriétaires terriens, afin qu'ils deviennent des personnes dont on ne pouvait pas dire qu'ils avaient beaucoup d'argent, mais simplement beaucoup de terres, beaucoup de présence. Il me semble qu'aujourd'hui, on a remplacé les terres grecques par l'accumulation des billets de banque. Et effectivement, la cupidité, c'est d'une certaine manière dire que ce que l'on vaut, c'est ce que l'on possède, et ce que l'on possède comme argent.
Or,
c'est pas uniquement ça.
Autour de la question, pourquoi faire la psychanalyse de l'argent, on écoute la riche voix de Barbara Carlotti sur RFI, l'amour, l'argent et le vent.
Je marche nu les pieds, nu les jambes, nu les bras, nu sur la lagune. Jambes nues sur la lagune, et j'aime le vent, l'amour et l'argent, et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Toutes ces choses on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne devrait pas. Le soleil sur les vagues.
Et ce n'est pas parce que la nuit tombe que je tomberai à genoux devant toi. J'attendrai que le soleil se lève et le vent avec moi. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux d'adultes, tu vois. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux de brutes, c'est ça. Et les gosses jouent, ils savent déjà l'amour, l'argent, le vent.
Barbara Carlotti sur RFI, l'amour, l'argent et le vent, ce que savent les enfants, Patrick Avran, et peut-être les psychanalystes aussi.
L'amour, l'argent et le vent, ça fait penser aux choses qui ne se monnaient pas, qui ne se vendent pas. Il y a quelque chose que connaissent bien tous les enfants. Les enfants ont ce qu'on appelle maintenant des doudous. S'il y a quelque chose qui n'a aucune valeur, ou tout au moins qui a une valeur qui n'est pas mesurable, c'est-à-dire qui est franchement pas, c'est absolument pas monnayable, c'est le doudou.
Qui en même temps a une valeur inestimable, mais monstrueuse.
Absolument. Un enfant, on le voit très bien quand il devient adolescent, il se débarrasse de ses jouets. Il va dans un dépôt-vente ou dans une brocante, il va vendre ses petites autos, ses poupées, etc. Est-ce qu'il vendra son doudou? Certainement pas. De toute façon, à quel prix pourrait-il le vendre? C'est impensable. Il y a quand même aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dans le circuit monétaire, et c'est tout ce qui a trait avec ce qui nous touche le plus, c'est-à-dire les choses que l'on aime. On ne peut pas les vendre, ou si on les vend...
C'est qu'on ne les aimait pas tant que ça,
c'est
peut-être.
Qu'on ne les aimait pas tant que ça, ou bien, de toute façon, elles ne seront jamais au prix qu'elles valent.
Autour de la question, pourquoi faire la psychanalyse de l'argent? Je propose un dernier éclairage, Patrick Avran, sur ce que nous faisons de l'argent et sur ce qu'il fait de nous. Celui de l'urbaniste et philosophe Thierry Pacou, qui a une question pour vous.
L'argent, évidemment, on connaît tous l'analyse de la rétention, du rapport entre la constipation et l'épargne forcée, qu'on appelle l'avarice. Bon, donc, je serais tenté d'inverser son propos et de lui demander qu'est-ce qu'il penserait de la dépense excessive, de la redistribution, d'une charité d'une certaine manière un peu folle, enfin de tout donner, quoi, voilà, de tout partager.
Vous en pensez quoi, Patrick Avran? Tout donner, tout partager, une charité un peu folle?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, classiquement, la psychanalyse, l'argent, c'est lié avec le stade anal. Et donc, être constipé, c'est être avare. Et être diarrhéique, c'est tout dépenser, tout donner. On peut s'arrêter là.
Ça, c'est la première lecture de Freud de la psychanalyse.
C'est le classique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne tient pas compte, effectivement, de ce qu'est la monnaie, c'est-à-dire ce que je disais, l'histoire de confiance. Tout dépenser, tout donner, c'est quoi? Ça peut être entendu comme mettre l'autre en dette à son égard. Il y a quelque chose...
Complètement contrairement à ce que cela semble, aux apparences.
On peut penser ça, c'est peut-être pas toujours le cas, mais il y a quelque chose aussi qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire si je donne tout, personne ne pourra jamais me rendre tout ce que j'ai donné, c'est-à-dire que l'autre sera dans une dette constante à mon égard.
L'autre me sera redevable, en fait.
Me sera redevable, et tout donner, c'est quand même une grande demande d'amour. Parce que il me sera redevable de quoi? Il me sera redevable en amour de tout l'argent que je lui ai donné. C'est ce que vous diraient quelques psychanalystes. Il y a justement, dans la façon dont on dépense l'argent, quelque chose qui est sous-jacent, qui est la question de qu'est-ce que j'attends en échange qui n'est pas du côté de la monnaie, mais qui est du côté de la reconnaissance, de l'amour, etc.
Et il y a tout ça derrière l'argent, finalement. Voilà pourquoi ça vous intéresse, cette question de l'argent.
Il y a tout ça derrière l'argent à partir du moment, effectivement, où ce n'est pas un simple achat. Hein, c'est la façon dont on le dépense, ça implique la façon dont on est avec les autres et ce qu'on attend des autres.
On l'a dit aussi aujourd'hui, l'argent est tout de même roi et on est beaucoup plus dans ce que l'on a ou dans ce que l'on peut acheter que dans ce que l'on est réellement. On est en crise aussi. Est-ce que on pourrait dire quoi, que l'argent est dans un monde un peu en perte de repère et notre dernier seul grand repère? On pourrait dire ça comme ça, Patrick Avran?
Si c'est notre dernier seul c'est grand grave. Repère,
il y a du souci à se faire.
Il n'est pas très solide comme repère.
Il n'est pas solide, oui.
Je pense qu'il y a, il y a la nécessité de réfléchir l'argent, pas simplement comme donnant de la valeur à soi-même, mais de le mettre à sa place de monnaie d'échange et de ne pas le diaboliser.
Non plus.
C'est-à-dire que de penser qu'effectivement, c'est un outil qui permet un échange relativement simple avec les autres, de la même façon que c'est quand même plus facile de parler avec des mots que d'inventer à chaque fois quelque chose pour comprendre ce que veut dire l'autre. Il y a une liquidité de la parole, c'est-à-dire que la parole peut dire ce que l'on veut à partir de l'autre où comprend notre langue, comme il y a une liquidité de l'argent. C'est quelque chose qui, effectivement, ça permet les échanges de toutes sortes.
Est-ce qu'on peut avoir un rapport tout à fait sain ou tout à fait simple avec l'argent? Parce que après avoir lu cette petite psychanalyse de l'argent, je me dis que ça, évidemment, que ça cache pas mal de choses. Est-ce que ça existe un rapport, peut-être pas parfaitement, mais assez sain ou assez simple avec l'argent, Patrick Avran?
Je ne sais pas s'il peut y avoir un rapport simple avec les choses en général. Oui. Il peut y avoir un rapport qui ne soit pas toujours marqué, on pourrait dire, de la névrose, comme diraient les psychanalystes. Un rapport simple avec l'argent, c'est celui qui permettrait de le mettre à sa place, c'est-à-dire de ne pas en attendre de ne pas en attendre la reconnaissance, l'amour, mais d'en attendre ce qu'il permet de payer. C'est-à-dire, tout simplement, ça permet de payer son psychanalyste.
Ah, ça permet de payer son psychanalyste. Là, je vous vois venir. Vous-même, vous avez un rapport que vous considérez comment à l'argent?
Je pense que j'ai pas un rapport très très compliqué à l'argent, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les psychanalystes, ils ont quelque chose auquel ils tiennent, c'est que l'argent soit présent physiquement. C'est-à-dire que, en général, pas toujours, parce que c'est pas systématique, mais il est demandé que les personnes payent avec des billets. C'est-à-dire que l'argent existe. Parce que, une autre façon d'avoir un rapport malsain, on pourrait dire, avec l'argent, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Et il y a une dématérialisation.
Avec nos cartes de crédit, c'est ce qu'on fait de plus en plus.
Oui, il y a une dématérialisation de l'argent qui remplace quoi? Qui remplace l'argent par la surveillance, parce que à la fois avec une carte de crédit, on en fait de plus en plus, l'argent ne se voit plus, c'est plus des billets, mais en même temps, on sait exactement ce que vous avez fait, quand, où, et qu'est-ce que vous avez acheté. Quand vous allez chez un psychanalyste, s'il ne veut pas de carte bleue, c'est précisément parce que ça fait partie, on pourrait dire, du secret de la séance.
D'une votre forme de, votre de résistance banquier, peut-être à la surveillance.
Voilà. Votre banquier n'a pas à savoir quand et où vous allez dépenser votre argent.
Donc au fond, la liquidité serait une forme de liberté un peu aujourd'hui de se servir de ces billets quand on peut et quand on en a, bien sûr.
Bien évidemment. C'est une liberté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évite la surveillance, et on voit bien d'ailleurs que c'est ce qui rend les choses dangereuses, puisque les États, dès qu'ils n'ont plus un œil dessus, ils pensent que c'est quelque chose qui est frauduleux.
On va se quitter là-dessus, Patrick Avran. Je laisse nos auditeurs se pencher sur votre petite psychanalyse de l'argent qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Merci d'être venu en direct, partager, j'ai envie de dire, tous ces ronds, toutes ces billes avec nous. On se quitte avec un incontournable, c'est presque un cliché. Money, des Pink Floyd, évidemment.
get back. I'm on Fried Jack, keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't hit me back, too good, good bullshit.
Money de Pink Floyd sur RFI. On se quitte là-dessus. Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez, amis auditeurs, à ce micro. Quant à nous, Guillaume Ploquin, Caroline Fillette, Lou Sauvageon et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi. Très bonne fin de semaine à vous, à l'écoute de RFI. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit ouvert. Un nouveau journal sur RFI.